du jour.
Jerry, bonjour.
Bonjour.
C'est au sortir de ce débat concernant la sécurité sociale de l'alimentation, où étaient posées beaucoup de questions sur son devenir et peut-être établir aussi un bilan de l'existant, quel sentiment as-tu par rapport à ces échanges ?
Ben, comme en fait, dans tous les moments où on est dans une salle où les gens découvrent la SSA, on se rend compte de la multitude de sujets qu'il y a à aborder pour commencer à comprendre un peu les enjeux politiques. Et ce dont je ne peux pas témoigner, mais en tout cas ce que j'espère, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que les gens voient les endroits, les différents endroits dont ils peuvent se saisir pour pouvoir être une part de ce projet politique révolutionnaire.
Ici, était relativement mis en avant Bornisère. C'était un référent pour cet échange qui a eu lieu.
Non, je dirais plutôt moins même que Diolfi. J'ai pas eu le sentiment, moi, qu'il y avait eu plus de place donnée à Bornisère qu'à Diolfi, par ailleurs. Mais effectivement, historiquement, Diolfi est beaucoup plus ancré dans le projet de SSA, puisque ça fait déjà, je dirais, quelque chose comme 5 ans qu'ils sont engagés sur ce projet politique, qu'ils sont engagés localement. Donc ils font plus à cet endroit-là figure de référence, si on veut dire, mais en vrai il y a pas, enfin disons qu'il y a quelques références, c'est simplement parce qu'elles sont historiquement plus anciennes, mais de fait tous les projets sont extrêmement différents, toutes les mises en place de projets autour et vers la sécurité sociale de l'alimentation sont tous extrêmement différents parce qu'ils se situent dans un endroit différent et que du coup la réalité politique, géographique, matérielle et sociale de chaque lieu est différente. Du coup on ne va pas faire la même chose, on ne peut pas plaquer quelque chose qui a eu lieu avant ailleurs. Donc les références elles sont juste relatives à là il y a eu toutes ces étapes qui ont été passées et quelles étapes nous on va franchir. Il va y avoir d'autres étapes dans d'autres lieux, d'autres choses qui vont être réalisées et qui vont donner d'autres sources d'inspiration. Comme d'ailleurs l'a très bien dit une camarade qui était dans la salle et qui travaille avec l'EXPE à Lyon. Toutes les EXPE sont différentes, quoi.
Cela induit aussi donc une concertation, que ce soit du producteur jusqu'au consommateur, avec toutes les chaînes autour et entre. C'est ça aussi d'établir cette sécurité sociale de l'alimentation.
Alors oui, du coup, effectivement, ce que vient réactiver la SSA et ce que viennent réactiver les organisations locales, les groupes locaux et les expérimentations de SSA, c'est qu'on va... On va s'éloigner progressivement de cette, dans le vocabulaire notamment, mais dans la posture aussi sociale de cette question de consommateur ou de consommatrice. Parce que du coup, cette perspective-là, elle est extrêmement limitée. En fait, elle est dépolitisante. Et donc, on va plutôt parler... D'ailleurs, c'est la même chose qu'on pourrait dire que bénéficiaire. Bénéficiaire, ça pose un problème. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne active sur ce qui se passe. Tu bénéficies d'une aide. Du coup, c'est comme ça qu'on participe au discours qui consiste à culpabiliser les personnes qui peuvent avoir ces aides. Or là, on n'est plus dans un contexte de « on va bénéficier d'eux » ou « on est des consommatrices », mais on va être une part de l'organisation des systèmes alimentaires. Et en étant une part là-dessus, du coup une part active, en fait, en ayant un choix sur l'organisation, là on commence à devenir des citoyens, des citoyennes. Et donc je dis ça aussi, c'est en prenant en compte les personnes exilées et ou sans papier, qui sont absolument pas reconnues. Si on institutionnalisait aujourd'hui la SSA, bah en fait, quid des personnes sans pape, en fait, qui sont pourtant bien volontaires dans l'organisation de la cité, à commencer par la question du travail. Très clairement, le capitalisme, aujourd'hui, le système, et dans l'alimentation, c'est très, très clair en termes d'emploi de personnes sans papier. C'est une manne énorme, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas sans les personnes sans papier, qui sont très impliquées, en fait, dans la production alimentaire. Et dans plein d'endroits, dans les cantines, dans les restaurants, enfin, genre les gens à la plonge, enfin, toutes ces personnes, en fait, qui sont une part de la production. Donc la production, c'est tout ce qui consiste à faire quelque chose et à donner de la valeur ajoutée. à des produits, on va dire, de base, quoi, qui sont là, voilà. Tout ce qu'on va faire va apporter de la valeur ajoutée. Donc, quand on est travailleur et travailleuse, à partir du moment où on apporte de la valeur ajoutée à quelque chose, qu'on soit salarié ou pas, hein, et qu'on soit avec ou sans papier. Du coup, le projet politique, là, il implique de prendre en compte tout le monde. Et en prenant en compte tout le monde, on sort de ce statut de bénéficiaire et de personnes qui vont juste servir le capitalisme et donc dépolitiser en étant simplement des consommateurices, mais en étant actrices de l'organisation collective des systèmes alimentaires.
C'est-à-dire qu'il y aura une chaîne de production d'aliments, de producteurs, une chaîne de transformation. Parce que je vois pas comment tu relis l'alimentation de ce type-là et bien avec les sans-papiers, juste pour que leur donner du boulot ou quoi. J'ai pas très bien compris. Comment tu organises ça? Quel est le rapport avec les sans-papiers? C'est politique. Alors bon, c'est uniquement politique. C'est un choix politique.
Oui, bien sûr que c'est un choix.
Que je comprends pas forcément.
En fait, si j'ai bien compris dans ton propos, les clandestins n'étant pas reconnus socialement, n'ont pas droit à quelconque aide. Donc, il y a la sécurité sociale de l'alimentation.
Ben justement, ils ne seraient pas bénéficiaires de la même manière que n'importe quelle personne avec papier serait pas simplement bénéficiaire, mais serait partie prenante de l'organisation. En fait, quand on dit bénéficiaire, ça veut dire qu'on met de côté les personnes qui profitent, entre guillemets, enfin en tout cas qui peuvent avoir accès à des aides sociales, parce qu'elles ne sont pas dans un espace de pouvoir, c'est-à-dire de prise de décision sur l'organisation. Mais là, comme de fait, en fait, si on reconsidère la place du travail dans l'organisation de la cité, qui est un travail aujourd'hui capitaliste, et du coup fortement hiérarchisé, et ben en fait, effectivement, l'ensemble des filières, là on parle de l'alimentation, l'ensemble des filières de l'alimentation dans lesquelles on retrouve quasiment dans toutes des personnes sans papier. Donc c'est pour dire y compris ces personnes-là, mais c'est pas pour dire que c'est un projet pour ces personnes-là.
D'accord.
C'est un projet pour tout le monde. Oui, je les prends en compte. C'est-à-dire à partir de ce moment-là où on pourra se sentir un peu plus fier peut-être d'employer le terme de citoyen et de citoyenne. Parce que là, il n'a aucune valeur aujourd'hui puisque les personnes qui n'ont pas le droit de vote ne sont pas considérées comme citoyennes ou citoyens alors qu'ils travaillent, qu'ils payent des impôts.
Plusieurs questions ont été proposées au public pour débattre. La première, c'est les risques d'une institutionnalisation de la SSA. Quelles craintes voulez-vous exprimer sur cet aspect-là, donc ?
Il y a plusieurs choses. Déjà, très concrètement, aujourd'hui déjà, si on veut partir du concret, de l'existant, on peut voir que comme une des problématiques soulevées par la SSA, c'est, on peut dire d'un côté la malbouffe et puis surtout en fait la précarité alimentaire. Donc la précarité alimentaire, ça veut dire qu'on n'a pas à manger pour subvenir à tous ses besoins physiologiques, vitaux. Si on s'appuie sur ces questions-là, aujourd'hui, l'agriculture, elle est organisée de manière à pouvoir fournir les banques alimentaires, les restos du cœur, enfin tout ce qui est l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire, elle a un grand nombre de problématiques, y compris la maltraitance, que ce soit des bénévoles qui distribuent ou des personnes, pour le coup, bénéficiaires. On voit que si on mettait en place une SSA aujourd'hui, alors qu'il y a une prise en main des outils de production et de l'organisation des systèmes alimentaires qui est très minime, les députés se mettaient d'accord le Sénat pour voter une loi, même ne serait-ce qu'une loi d'expérimentation, ça n'irait pas vers un progrès démocratique, clairement. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on se servirait d'un projet révolutionnaire, mais comme ça a beaucoup et souvent été le cas dans l'histoire, et beaucoup dans l'histoire de la Sécu, évidemment, on se servirait de ça pour dire, on va nourrir les pauvres, en fait, on va juste faire une amélioration de l'aide alimentaire. Et du coup, on va rien changer au système capitaliste qui produit cette pauvreté et qui produit l'alimentation qui va permettre aux pauvres de ne pas mourir tout de suite, mais en leur donnant de la merde.
C'est une récupération, en fait.
C'est de la récupération, ouais.
Donc, il y avait aussi cette question, la dépolitisation. Est-ce que c'est concevable de pouvoir organiser sans politique ?
Alors, le terme dépolitisation, il veut pas dire. Alors, c'est un terme, du coup, comment dire. La dépolitisation, c'est un problème qui fait qu'on ne prend pas en charge collectivement une question sociale et politique. Dépolitisation, ça ne veut pas dire on met à l'écart les politiques, les politiciens et les politiciennes. Mais évidemment, le sujet, c'est de plus avoir de spécialistes de la politique, des gens qui vont faire à notre place, et donc on va s'emparer nous-mêmes des sujets politiques. Donc le problème de la dépolitisation de l'alimentation, c'est justement de renvoyer les questions de l'alimentation à l'individu. Et du coup, de dire, c'est à toi de bien manger, c'est à toi de bien choisir tes produits, c'est, etc., etc. Bien sûr qu'il y a une part d'éducation pour la reprise en main des systèmes alimentaires, mais c'est à nous de le faire et c'est entre nous. Et moi, j'ai plein de choses à apprendre, notamment si on travaille avec les productoristes qui nous expliquent comment ils travaillent, etc. Et là, on peut comprendre les tenants et les aboutissants. Et du coup, on prend en charge ça collectivement et donc on politise les enjeux et on comprend ce qui se passe et du coup, à partir de ce moment-là, on sait vers quoi on a envie d'aller. Et ce n'est pas à d'autres qui vont de choisir pour nous et de mettre une loi du plomb où, en fait, il faut faire les choses pour les agriculteurs. Mais en fait, on fait ça pour la FNSEA et on met en place des lois qui sont juste complètement écocidaires et qui sont antidémocratiques, quoi, de base. Hein. Voilà.
Sur les prochaines élections, rapprocher un peu de ce que tu penses d'un parti qui risque d'être donc pour le coup élu et qui pourrait mettre en place ce type de projet. Toi, tu penses à quoi ?
Là, tu poses une question qui va finalement très très loin. Ouais, ça dépasse complètement le cadre de la SSA. Mais en soi, en l'occurrence, effectivement, là, en ce moment, actuellement, par exemple, il y a la France Insoumise qui fait des auditions au Parlement avec un certain nombre d'organisations, dont Réseau Salariat, dont Démocratie Alimentaire et d'autres personnalités publiques ou pas publiques d'ailleurs, mais sur la question de la SSA, pour pouvoir faire une proposition autour de cette question-là. Pour moi, en fait, s'il y a une chose à dire sur la prise en charge et la prise en main au niveau institutionnel dans un contexte particulier qui est celui de la représentativité dans lequel on est aujourd'hui, dont le principe est quand même historiquement et qui a été fait pour donner le pouvoir à une partie de la population et surtout pas à l'autre pour qu'elle puisse aller travailler. Dans ce contexte-là, si on a un Ambroise Croizat qui dit « Tenez, voilà les clés du bâtiment, organisez-vous là-dedans, nous, on n'a pas de droit de regard sur ce que vous faites », si un seul parti comprend ça, bah, pour moi, en fait, c'est OK. Et du coup, là, aujourd'hui, le seul parti qui fait cette démarche-là d'être à l'écoute par rapport à ça, en dehors d'un contexte électoral, parce que c'est ça aussi, combien de partis sont venus frapper à notre porte à un moment électoral particulier pour dire dites-nous ce que vous en pensez, comme ça on pourra dire des choses bien, quoi. En fait, ça pose pas la confiance, ça pose pas un rapport de confiance. Là, on est dans un cadre où on voit bien qu'il y a une nécessité assez impérieuse qui relève du contexte global, parce que probablement, j'imagine en tout cas, qu'ils ont bien compris l'enjeu de la démocratie alimentaire à cet endroit-là que pose la SSA, et que si là-dessus ils sont OK et qu'ils ont bien pigé, ils vont lâcher du lest. Ils vont donner de la place, en fait. Ils vont se mettre à l'écart. C'est ça, le travail des institutions. C'est de se mettre à l'écart, de donner les moyens et de se barrer.
Alors, vous parlez aussi de préservation de mainmise sur les systèmes alimentaires. La SSA émane de citoyens qui s'entraident, qui s'adressent aussi à des populations qui ont nécessité de se nourrir, d'être nourries, avec aussi peut-être leur participation de ces personnes dans cette organisation. Donc, c'est ça aussi, cette structure à préserver. Ou alors, est-ce qu'il y a des pensées pour peut-être encore plus développer ou bien asseoir, voire pérenniser certaines structures ou activités.
Là, du coup, ça me donne envie de renvoyer en particulier au collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation. Collectif qui a été créé par plusieurs organisations nationales à la base et qui a été rejoint, si je ne dis pas de bêtises, en 2023 par un grand nombre de plus petites organisations, c'est-à-dire des orgas locales, des expérimentations et des initiatives locales qui travaillent vers la SSA. dans lequel, du coup, effectivement, il y a une certaine conception de la démocratie et de l'organisation collective. Et les principes de ce système politique démocratique ne sont pas immuables. Ils sont ceux sur quoi on s'est arrêté en se disant ça, c'est ce qui nous semble être une organisation vraiment démocratique. Donc, à savoir, pour expliciter mon propos, on a trois modèles, enfin trois portes d'entrée de prise de décision qui se succèdent, que sont d'abord le consensus. Le consensus, ça veut dire tout le monde dit oui. Ensuite, si on n'arrive pas au consensus, le consensus étant un processus long qui nécessite beaucoup de discussions. En fait, c'est le principe de la démocratie. On débat, on n'est pas d'accord, eh ben, on discute jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde. Si on ne trouve pas, on a le consentement qui suit après. Le consentement, ça veut dire, je ne suis pas hyper raccord, mais allez-y, ce n'est pas grave, je ne dis pas non. En fait, ça veut dire, personne ne dit non. Et ensuite, si on n'arrive pas à aboutir à personne ne dit non, s'il y a toujours un blocage quelque part, eh ben, on peut proposer une autre forme de prise de décision qui est nécessairement moins satisfaisante et possiblement moins impactante et qui d'ailleurs s'utilise jamais dans un contexte de structuration de notre organisation, c'est le vote par jugement majoritaire. Ça, je vous invite à aller vous renseigner sur Internet. Il y a des vidéos courtes qui expliquent bien ce que c'est. Et donc, ça, c'est le modèle d'organisation du collectif pour la SSA, qui est une organisation donc interrégionale, pour ne pas dire nationale. Et dans laquelle il y a plein de courants politiques, enfin un certain nombre de courants politiques variés, quoi, différents. Et c'est aussi pour ça, si on voit le collectif pour la SSA comme un espace de coordination des organisations locales à l'échelle interrégionale, c'est-à-dire macroéconomique, du coup, on peut imaginer qu'à chaque fois qu'il va y avoir des nouvelles orgas à rentrer, ça va pouvoir venir bousculer au bout d'un moment les modalités d'organisation. Et c'est ça la démocratie, en fait.
Justement, ce qui est proposé aussi est typique, spécifique à une localité, par exemple une organisation qu'on peut trouver à Isère-Bourne ou à Dieulefit, n'a rien à voir avec d'autres lieux que vous connaissez peut-être en France. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler de regrouper toutes ces structures, parce que ça voudrait dire donc de répondre pour l'ensemble dans un système démocratique, mais où beaucoup sentiraient peut-être frustrés. Et je voulais savoir... est-ce qu'il y a peut-être plus une réflexion de l'idée de fédération plutôt que d'une structure unique de la SSA ?
Non, mais pourquoi ? Parce que le collectif pour la SSA n'est pas un organe centralisateur. C'est, comme je le disais juste avant, une organisation de coordination. Et du coup, ce n'est pas un espace de décision prioritaire. Là où ça se décide d'abord... c'est au niveau local. Et pour ça, on peut effectivement parler de fédération, comme on peut le voir au Rojava, ou comme on l'a vu très particulièrement, on le voit au Chiapas. C'est une organisation donc non étatique. Ils disent pas au Chiapas communaliste, mais pour moi, je dirais ça. Du coup, c'est complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a un espace de discussion où il va y avoir des porte-paroles qui auront un mandat, et ça, c'est une question qui est vraiment centrale dans une organisation démocratique à large échelle, c'est celle du mandat. C'est-à-dire qu'on a une organisation locale qui va donner mandat à deux porte-paroles, minimum, c'est bien d'avoir toujours au moins deux personnes, qui vont aller discuter de ce qui aura été discuté collectivement et pas d'autre chose. On ne parle pas en son nom propre. C'est ça le mandat aussi. Hein. Avec d'autres personnes de d'autres groupes locaux, donc pour une échelle supérieure. Et de cette échelle supérieure peut naître également un porte-parole avec un mandat, si on a réussi à aboutir à quelque chose déjà à cette échelle-là, pour aller ensuite, du coup, à l'échelle encore supérieure. Donc on peut imaginer, genre, pour se figurer un peu la chose, on part d'une organisation locale, donc ça peut être quartier, village, éventuellement ville, même si ça me paraît un peu plus compliqué, je pense que quartier, ça fait plus sens. Ensuite, peut-être à une échelle régionale, et à chaque fois, ces choses-là, elles ne sont pas dessinées par l'administration française actuelle, mais par des réseaux d'organisations concrètes. Qu'est-ce qui fait qu'on est relié avec tel ou tel territoire, avec telle personne, et comment tout ça, ça circule, quoi. Et que du coup, en fait, ça fait des allers-retours. C'est pour ça qu'au Chiapas, ils appellent ça le réseau, enfin, c'est des réseaux, on va dire, escargots. Donc, ils appellent, ça s'appelle les escargots. Pourquoi ? Donc, c'est ce qu'on pourrait imaginer, ça remplace un peu aujourd'hui une préfecture, quoi, mais du coup c'est pas une préfecture parce que c'est, il y a pas d'État, mais qui va être un gros espace de rencontre de toutes les localités où on va discuter de ce qui a été discuté décidé auparavant localement. On va voir si c'est raccord ou pas. Si c'est raccord, tant mieux. Si ça l'est pas, et ben on dit pourquoi, et ça revient aux localités, et du coup dans les localités on discute de pourquoi c'était pas ok. Ah bon, d'accord, bah qu'est-ce qu'on fait, et puis donc on prend une décision, puis ça remonte, ça prend gavé de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est la démocratie, en fait. Et du coup, ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça rentre directement et de fait en conflit avec une organisation capitaliste de la démocratie et du travail. Parce qu'on doit prendre du temps pour décider ensemble et on doit s'écouter. S'écouter, c'est la base de la démocratie. Et en fait, dans un contexte où tu es pressé, où tu n'as pas le temps, où tu dois avoir un chef pour décider parce qu'il faut vite, vite, vite faire, bah ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être démocratique. Et par contre, ça correspond tout à fait à une organisation capitaliste de préemption par une petite partie de la population des terres et des productions.
Il y a aussi cet aspect de l'aide alimentaire dégradante en opposition à l'alimentaire dégradante de qualité. Est-ce qu'on peut peut-être préciser ce propos ?
Alors ça, ça vient de moi.
Mais je pensais justement, on se souvient de cette création des Restos du Cœur dans les années 80. Je me souviens de ces personnes derrière les tables qui distribuaient donc les denrées à un public parfois démuni ou qui n'avaient pas les documents qu'il fallait pour avoir droit à avoir quelques victuailles. Et là, il y avait un côté assez désagréable, je trouve. Et ça me fait penser à cette notion de dégradation, de dégrader la personne. Est-ce que ça, c'est considéré aussi ? D'où, peut-être, cette proposition à ce que les bénéficiaires aussi agissent dans cette sécurité sociale de l'alimentation ?
Oui, évidemment. En fait, pour commencer à aborder le propos de manière vraiment précise et pertinente, je vous invite à lire ce document. Alors pour le coup, qui est assez conséquent, si on n'aime pas lire, ça va pas être facile. Mais c'est le livre de Bénédicte Bonzi. C'est le livre de Bénédicte Bonzi qui s'appelle La France qui a faim. Et où elle a fait une étude auprès des Restos du Cœur. Elle a elle-même été bénévole au Restos du Cœur. Et du coup, elle parle depuis cet endroit-là de bénévole, quoi, et de sociologue aussi, en expliquant tous les travers du fait de l'aide alimentaire. Et du coup, c'était ce que je soulignais tout à l'heure sur une potentielle problématique posée par une récupération institutionnelle de la SSA, c'est de transformer l'aide alimentaire en quelque chose de plus fun, quoi, en gros. Et du coup, qui ne change en rien les systèmes alimentaires. Et c'est sûr que là, aujourd'hui, on a, je crois, c'est 11 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire. Au Resto du Cœur, on ne demande pas de papier, on ne demande rien, il n'y a pas de justification. C'est déjà ça. Mais c'était un principe qui a été posé par Coluche dès le début, quoi. En fait, d'ailleurs, il faisait ça même chez lui. Il avait un gros seau de... Bon, ça c'est... En fait, c'est de la charité, le truc, en fait. C'est ça aussi. C'est que l'aide alimentaire, c'est de la charité. C'est une manière de dire, non, mais regardez, on pense quand même aux pauvres. C'est cool. C'est comme quand il y a la haute bourgeoisie qui va montrer qu'elle donne de la grosse thune, alors qu'en fait c'est le fruit du travail des travailleurs et des travailleuses, c'est le fruit ce qui donne cet argent, c'est de l'argent volé, parce que c'est le travail, c'est le fruit du travail des travailleurs et des travailleuses. Donc en restant, en fait, la charité, c'est un système qui permet de préserver la mise en pauvreté de la société.
Où se situe l'aspect financier dans cette organisation SSA au point de vue local ?
Il y a plusieurs questions. Parce que, en gros, il y a besoin de sous pour permettre à une caisse en elle-même de fonctionner juste pour l'approvisionnement. de l'alimentation elle-même. Et après, il y a les frais de fonctionnement, il y a le stockage, il y a potentiellement le stockage. Hein. Après, en général, ça, c'est le travail des productrices. Mais du coup, il y a aussi une administratrice ou un administrateur potentiellement à payer, ou des animateuristes aussi, parce qu'il peut falloir des personnes aussi pour venir animer des réflexions et poser des outils d'organisation collective et tout ça. Le meilleur exemple que je vois, moi, dont j'aurais envie de parler maintenant par rapport à ça, c'est celui de Cadenet, dans le Vaucluse. Il y a eu une association qui s'appelle Omaki, qui a proposé une réflexion dans le village aux citoyens et citoyennes pour voir ce qu'il y avait à faire autour de l'alimentation. C'était évidemment pas sans avoir de pensée sur la SSA, et donc ça a été posé. Et en fait, il y avait une animatrice et un animateur, Mathilde et Eric, qui ont lancé ces réflexions. Ça a duré, il me semble, 2 ans au moins, peut-être 3 d'ailleurs, avant la mise en place de quelque chose. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il y a un groupe d'une trentaine de personnes qui s'est posé autour de la table pour réfléchir à comment fonctionnent les systèmes alimentaires et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, nous, ici, localement, collectivement, pour faire fonctionner quelque chose où on pourra se sortir l'alimentation du capitalisme. Là, aujourd'hui, on en arrive à un point où les animateuristes sont plus du tout utiles dans l'organisation de cette caisse. Ils ont passé le relais magnifiquement. Aujourd'hui, les participantes de cette caisse sont complètement auto-organisées et ils ont même réussi à mettre de côté des sous pour l'investissement. Et ça, c'est la chose essentielle si on veut remettre en question l'organisation du travail et pouvoir l'améliorer notamment. Et donc, en l'occurrence, elle ne se passe pas encore non plus de subventions. Et c'est ça que doit permettre législation positive pour la SSA, c'est simplement le fait de pouvoir décider de ce qu'on va faire du pognon des cotisations, de pouvoir redistribuer en fait. Ça nous est interdit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de cotiser. On ne peut pas choisir ce qu'on va faire de notre pognon ici localement. Donc il faut que ça soit posé au niveau parlementaire, quoi. Si on voit les choses de manière idéale, après on voit bien comment le Parlement il est constitué. Est-ce que ce sera plus simple par le Parlement ou est-ce que ce sera plus simple par une insurrection révolutionnaire où les gens vont se réemparer des outils de production? Je sais pas ce qui va être le plus rapide, moi. Enfin, en tout cas, le plus simple. Voilà.
Ouais. Donc, si vous semble dire, il y a une situation de blocage actuellement pour ce développement de la SSA.
Oui, et c'est tout l'enjeu. Oui, il y a un blocage législatif. Et il y a le législatif, il n'est pas seulement pour dire dans la loi, mais aussi dans l'organisation de la cité, dans la composition du Parlement. Parce que, les gens qui sont élus au Parlement, ils n'ont pas envie qu'on ait le pouvoir. Ils n'ont pas du tout envie qu'on puisse décider à leur place, puisqu'ils ont été élus pour ça. Ils n'arrêtent pas de nous le dire. C'est ça qui leur donne leur légitimité, même si leur mandat, en fait, ils s'en foutent, puisqu'il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de révocation en cas de manquement au devoir. Il n'y a rien qui les contraint une fois qu'ils sont élus. Donc, déjà pour commencer, en fait. Mais du coup, aujourd'hui, je ne vois pas. Enfin, il y a très, très peu de parlementaires qui sont dans une optique de redonner du pouvoir et du coup de permettre aux gens de faire des choix. Donc, et que ce soit à gauche ou à droite, en fait. Et en plus, on voit bien le cours des événements qui est de plus en plus autoritariste. Ça donne pas beaucoup de... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chance de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu fondamental, à mon avis, de développer un maximum une organisation collective locale, partout, pour que ces questions soient prises en charge, et pour créer un rapport de force, et pour créer aussi un déjà-là d'organisation collective.
En quelque sorte, une autodétermination. Et vous parliez de cet aspect de campagne hein, pour la sécurité sociale de l'alimentation, où semble-t-il, il y a peut-être plus de facilité à se fournir en nourriture pour la distribution. Est-ce que c'est aussi vérifiable dans les cités urbaines ? Là, vous êtes de Rennes, c'est quand même une ville très universitaire, avec beaucoup d'étudiants qui ont aussi cette nécessité parfois de se nourrir.
Bah oui, par exemple, effectivement, à Rennes, on a le quartier de Villejean. C'est un désert alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que une grosse enseigne de l'agro-industrie qui distribue de quoi faire ses courses, qui propose de quoi faire les courses. Il y a eu un moment, je crois que ça n'existe plus, une petite épicerie, mais même avec elle, ça ne permet pas d'avoir un choix varié. Donc en parlant en termes de quartier, même dans une grande ville comme Rennes, c'est le cas. C'est vrai qu'à la campagne, je ne connais pas, je ne sais pas si, je pense qu'il y a des chiffres, mais que j'ignore, sur l'accès à l'alimentation. Après, c'est clair que dans des zones comme... l'Eure-et-Loire ou l'Eure ou enfin en tout cas dans la région centre où on est à blinde sur de l'agro-industrie, sur de l'agriculture conventionnelle avec des champs à perte de vue qui ont tous été touchés très très fortement par le remembrement. Là pour trouver du bio ça va être compliqué quoi. Je pense qu'on peut parler de désert alimentaire aussi. Même si on ne va pas se fournir directement dans les champs qu'il y a ou chez les productrices pour se nourrir. Mais après, c'est sûr qu'il y a des campagnes qui sont beaucoup plus riches à ce niveau-là. En Bretagne, on en a quand même pas mal, même si on est aussi très envahi par l'agriculture conventionnelle.
Ça rejoint un peu l'histoire des AMAP au début, en fait. C'est-à-dire quand tu as la commande en aval... Quand tu as la commande, tu peux travailler avec des producteurs qui vont fournir cette commande. Les AMAP ont démarré comme ça, c'est-à-dire en créant ce lien entre la production et les bénéficiaires. Donc c'était un peu la question de tout à l'heure quand tu disais qu'il fallait relier tout le monde, toute la chaîne. Voilà. Donc ça peut peut-être permettre à des jeunes éventuellement de se lancer sur des installations. C'est ça que je veux dire. S'il y avait une grosse demande... en potentiel.
Pour qu'il puisse y avoir ça, en l'occurrence, il faut de l'investissement et oui. Il faut de la cotisation. Et là, en fait, on peut subventionner. Mais une AMAP, elle ne peut pas permettre ça. Elle n'est pas suffisante, ne serait-ce que pour la question de l'accès aux terres, en fait. Les terres, c'est une galère sans nom. Et du coup, c'est vrai que les AMAP, c'est un déjà là de système de sécurité sociale. Mais malheureusement, on voit quand même de manière très criante qui sont les personnes qui vont à la MAP, en fait ? C'est des personnes pour qui il y a déjà une possibilité et un accès à cette culture, en fait, tout simplement. D'avoir connaissance, connaissance des enjeux, d'avoir connaissance du fait qu'il y a une AMAP. En fait, on voit bien à quel point c'est peu diversifié en termes de personnes qui vont donner des sous à leur AMAP. Pour autant... Et effectivement, et ça c'est ce que dit d'ailleurs, c'est une des limites qui est posée par l'atelier paysan qui fait partie du collectif pour la SSA et qui dit très justement en fait les AMAP c'est super mais c'est pas du tout suffisant. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait donner de la place à quelque chose comme ça dans une organisation collective ? Bah, il y a tellement de réponses à cette question et c'est à tout le monde de s'en saisir en fait. Mais c'est sûr que de toute façon il faut plus de monde dans les champs. Ça, c'est une chose, mais surtout, il faut un accès aux terres, aux paysans et paysannes sans terres, déjà. La propriété collective des terres, c'est effectivement un moyen de revenir sur les désastres causés par l'agriculture conventionnelle. Parce qu'on va pouvoir varier les activités sur le terrain, parce qu'on va pouvoir être sur plusieurs champs d'action en même temps, et parce qu'on va arrêter du coup de poser des engrais et des produits chimiques pour que ça pousse plus vite et plus gros, et que ça défonce la terre, et qu'on est obligé de réutiliser des nouvelles graines, etc. quoi. Donc ça... Que du mieux, mais la propriété privée ne pourra, si on reste dans un système de propriété privée, à mon sens, on ne pourra jamais sortir de l'agro-industrie. Et de toute façon, si on veut en sortir, on va vite s'en rendre compte. Hein. Ça va pas être compliqué. Et puis surtout, du coup, ça veut dire aussi, derrière, on utilise moins de pétrole, moins des grosses machines, enfin, voilà. Et on laisse plus de place aux oiseaux, aux insectes, etc., etc., quoi. Et aux autres végétaux.
pense que... Alors, au sortir de ce débat, est-ce qu'il y a des sujets qui t'ont conforté ou des idées qui t'ont conforté dans cette poursuite ?
Finalement, on a pas mal parlé des cantines. Et ça, c'est, j'ai trouvé que c'était assez chouette parce que je pense que c'est justement un espace qui est extrêmement central dans la question de la SSA parce que pour nous, en tout cas, à Réseau Salariat, du coup, l'association dont je fais partie et qui est une des associations qui a créé le collectif pour la SSA, la question des cantines, en fait, elle regroupe toutes les problématiques et toutes les questions et tous les sujets autour de l'alimentation. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va parler d'approvisionnement. Du coup, on va être en lien avec les productrices de l'alimentation, productrices du coup paysans, paysannes. On va aborder la question du stockage. On va parler des choix aussi de qu'est-ce qu'on veut comme produit, produit dans quelles conditions. Et ensuite, bah, du coup, il y a la question de faire à manger, la question ensuite du service et la question de l'administration. Et puis surtout aussi, c'est un espace de sociabilité, la cantine. Et c'est un espace, du coup, propice à l'organisation collective. Et donc, on se réapproprie comme ça, à cet endroit-là, des modalités d'organisation collective. Et donc, en fait, on réapprend... dire de réapprendre, c'est comme si ça avait été là avant, alors que justement, on apprend par nous-mêmes à mettre en place un modèle démocratique qui nous correspond. C'est hyper compliqué, c'est hyper long, mais c'est hyper satisfaisant et ça peut être très galvanisant au bout d'un moment quand on arrive, quand on voit qu'on arrive à mettre en place des choses vraiment conséquentes. Et pour moi, c'est un endroit tout simplement qui pourrait rendre l'alimentation non pas gratuite parce qu'elle est issue de la cotisation et la cotisation est issue du travail, mais en tout cas qu'on n'aurait pas à payer une fois qu'on va à la cantine puisqu'on l'a déjà payée.
Voilà, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est plus avantageux de 50 personnes qui cuisinent chez elles pour manger qu'un service qui prépare un repas pour 50 personnes en niveau énergie? Ça doit être beaucoup plus rentable, ne serait-ce que ça.
Ça, c'est certain. À partir du moment où on collectivise, il n'y a pas de secret. Hein. Écologiquement, c'est tout bénef. Même au niveau sanitaire, j'ai une connerie. Au niveau sanitaire, c'est pas plus simple. Mais, en l'occurrence, disons que si ça devenait un modèle dominant, ça veut dire aussi qu'on sort du modèle de la production agro-industrielle. Donc si, au niveau sanitaire, c'est quand même vachement plus safe, en vrai. Les cantines, pour moi, c'est vraiment l'endroit de prise en main, de début, quoi, de prise en main, de prise en charge de la question de la démocratie alimentaire.
Juste, il faudrait des petites cuisines. Parce que, par exemple, Valence, c'est 3000 repas jour, tu vois, la cuisine centrale qui se passe. Donc, ça veut dire que c'est forcément des petites unités pour créer cette espèce de laboratoire démocratique. Tu vois, c'est important. Sur une interco, par exemple, il faudrait vraiment quelque chose qui soit à dimension réduite, quoi.
Pour que ça se fasse, parce que... Sinon, ça devient tout de suite un gros faiseur et c'est complexe au niveau technique et tout. Et après, organisation du travail aussi. Je me pose la question de la dimension très humaine. Voilà.
Effectivement, je ne sais pas quelle est la bonne échelle d'une cantine pour qu'elle reste à dimension humaine et du coup appropriable collectivement. Mais on a cet exemple des cantines, par exemple, à Montreuil, qui prennent lieu et place dans des squats, entre autres. Du coup, tu as le collectif des Baras, notamment, qui faisait ça. Ils font des cantines. C'est 3000 repas jour avec des assiettes hyper conséquentes à 3 euros. Alors, c'est pas du bio, c'est pas du paysan, mais en fait, ça nourrit tout le monde, c'est autogéré. Et du coup, c'est un espace à considérer dans la SSA, je pense. Et donc, effectivement, peut-être que ça, c'est une bonne échelle, peut-être. Mais du coup, en fait, on peut penser les choses au niveau, déjà démocratique et par quartier. Du coup, c'est sûr, on va pas faire une cantine pour tout le monde à Paris, quoi.
Alors, il existe un site internet pour la sécurité sociale de l'alimentation. On peut y trouver les ramifications aussi locales sur ces pages. Voilà. D'autres contacts, peut-être ?
Oui. Sécurité-sociale, avec un E à la fin, -alimentation.org. Effectivement, vous avez tout expliquer sur c'est quoi les principes de la sécurité sociale de l'alimentation, et vous pouvez trouver un lien qui vous envoie sur les groupes locaux et les initiatives locales et les expérimentations qui existent un peu partout en France, si vous avez envie d'en rejoindre une, ou si vous avez envie de vous inspirer de ce qui se fait déjà pour faire quelque chose, comme des réseaux de ravitaillement pour nourrir les greffes, parce qu'on en a besoin, puisque la question centrale, selon moi, est celle du travail. Mais aussi du coup pour répondre à des problématiques de précarité alimentaire, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire qui sont très accessibles et pour lesquelles il n'y a pas besoin forcément d'argent pour pouvoir mettre en place des choses, quoi. Et en tout cas, ce sera toujours plus simple collectivement. Un appel dans un quartier, dans une ville, est facile à lancer pour poser un rendez-vous. Si on n'a pas de bâti, dans un lieu public, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire à partir de juste un appel.
Dernière question, Jerry. Quelle est l'expérience qui t'a amené à agir au sein de la sécurité sociale de l'alimentation ?
Ça a été des camarades de réseau salariat, où du coup un débat a été... Enfin, il y avait une intervention de Bernard Friot, avec Frédéric Lordon pour présenter leur bouquin, avec les camarades de Réseau Salariat, on en est venu à discuter des questions d'alimentation et tout ça, et moi j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, et donc j'ai suivi les camarades dans l'organisation d'été, ce qu'on appelle les estivales, où ça parlait de ça, et j'ai vu que c'était une organisation qui me semblait tout à fait démocratique, et en même temps où j'ai trouvé des personnes très bon vivant, et du coup ça m'a donné envie en fait de rentrer là-dedans, et puis de voir après à quel point la SSA était un sujet qui était en fait qui nécessairement touche tout le monde, puisque tout le monde mange pour vivre. Et qui est appropriable directement et qui est transformable au fur et à mesure qu'on s'y mêle, quoi. Et du coup, voilà, j'ai mis un pied dedans et j'ai pas réussi à en sortir depuis. J'essaye, mais j'y arrive pas. C'est trop bon.
Merci, Jerry. Bonne soirée.
Eh bien, merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonsoir.